Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pierre Mandel. Curieux, sympathique, informé.
Pierre Mandel, Cube Radio.
Bon matin tout le monde, mercredi 21 avril. Pour moi, le mercredi 21 avril, on dirait que c'est comme, c'est-tu le début du printemps? Mais non, c'est supposé être le 21 mars. On est un peu mélangé aujourd'hui, monde, parce qu'il annonce la neige.
Oui, des petits flocons, mais moi, il y en avait quelques-uns sur le dessus de mon
c'était
auto.
C'était poétique un petit peu, mais ça va l'être moins en après-midi.
C'est ça, ça tombe pas encore. On a un petit répit, mais à Montréal, ça devrait être
deux, trois
à peu près rien. Mais dans l'est du Québec, là, bonne bordée, il va falloir ressortir la perle. C'est quand même quelque chose, protéger vos fleurs.
On a le passé. Ben oui, c'est ça, on a
je voyais les beaux pommiers en
de
fleurs.
Mais oui.
Hier, c'est donc bien plate. Ça va tout se faire détruire, ça, aujourd'hui puis demain.
C'est vrai.
J'espère que non. Je croise les doigts, là, mais c'est un peu difficile.
Ah là là, c'était météo imprévisible. Ouais. Et une chose, en tout cas, qui était peut-être pas imprévisible, mais qui était très attendue, c'était le jugement hier. Je pense honnêtement que dans l'histoire de l'Occident, puis de l'Amérique du Nord et des États-Unis, puis évidemment de nous qui vivons juste à côté, ça va changer la donne, la décision des jurés, donc de reconnaître Derek Chauvin coupable des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui.
On dit sur toute la ligne, donc homicide involontaire, meurtre au troisième degré, violence volontaire ayant entraîné la mort. Ce sont les trois chefs d'accusation, donc pour lesquels Derek Chauvin est quand même passible d'un total de 75 ans de prison. Sa sentence, on va la connaître là, au final dans deux mois. Le jury qui a rendu son verdict hier en fin de journée après seulement 10 heures de délibération. Mm-hmm. Plusieurs l'ont souligné, c'est très court. Très, très court pour en arriver à l'unanimité. Donc, Derek Chauvin qui va aller derrière les barreaux, évidemment, si ça faisait plaisir à tout le monde qui était réuni hier dans les rues de Minneapolis. Les cris de joie ont pas tardé. Là, il y a Mario Dumont qui a parlé avec un homme qui était là, présent devant le palais de justice.
J'ai entendu ça.
Qui était très sollicité aussi durant son entrevue. Là, donc, un homme très impliqué dans sa communauté qui exprimait à quel point ce jugement-là, il était important. Il va résonner. Joe Biden a réagi à ça hier, dit que c'est justement un jugement qui est important puis qu'il faut que tout le monde soit à l'aise avec les forces en place, donc l'autorité, de dire que les Afro-Américains, les minorités, devraient pas avoir peur justement des policiers. C'est quelque chose qui est super important, qui était très attendu hier. Puis on attend évidemment aussi la sentence là avec impatience.
Bien sûr. Puis ce qui est frappant, c'est qu'il l'ambiance qui régnait était une ambiance de soulagement, de satisfaction et même un peu comme d'euphorie de voir que enfin il y avait eu une pierre blanche qui vient d'être déposée dans le sentier sur la réconciliation d'une Amérique qui des États-Unis qui on parle souvent de minorité, mais en réalité c'est plus que jamais une mosaïque, l'Amérique du Nord, les États-Unis évidemment. Puis on voit que Joe Biden et Kamala Harris ont cherché à endiguer, puis pas de façon mesquine et politique de façon partisane, plutôt au niveau sociétal, de dire là, on repart en neuf avec ça. Et M. Biden avait mis pas mal de billes, il avait parié pas mal. Hein. Il avait même sorti en disant, j'espère là, que le verdict sera le bon. Certaines personnes lui reprochaient d'avoir de cette émission un peu là-dedans, mais je pense que de toute évidence, il a bien senti, c'est la surprise, beaucoup de commentateurs politiques aujourd'hui réalisent à quel point Joe Biden a été sous-estimé pendant la campagne électorale et qu'aujourd'hui, ben, son calme, sa bienveillance peut faire la différence, peut apaiser toutes ces tensions qu'il y a aux États-Unis. Ça va, c'est vraiment une excellente nouvelle pour tout le monde, de toute évidence. Autre bonne nouvelle pour nous au Québec, donc la vaccination pour les 45 ans et plus qui commence.
Oui, c'est débuté. Puis il y a même des gens qui ont décidé d'aller dans les centres de vaccination sans rendez-vous hier, des 45 ans et plus, qui se sont dit, c'est censé être ouvert à partir de mercredi, donc aujourd'hui, mais on va prendre une chance, on va essayer. Il y en a plusieurs qui ont réussi donc à se faire vacciner hier avec AstraZeneca, qui est offert en clinique sans rendez-vous. On a 200 000 doses d'AstraZeneca qui sont disponibles pour à peu près 800 000 personnes qui sont maintenant admissibles. Ça comprend toutes les personnes de 45 ans et plus, aussi les maladies chroniques. Là, on a fait un ajustement. Donc, on a allongé la liste des maladies chroniques qui sont admissibles. Puis, c'est pas parce que t'es un patient qui est pas régulier à l'hôpital, parce que c'est ça que ça prenait là, à la base pour se faire vacciner, c'est d'aller régulièrement avoir des soins juin, puis c'est à ce moment-là qu'on administrait le vaccin. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui a été bien accueillie hier à Paris qu'aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de rendez-vous qui vont se prendre, puis beaucoup de files qui vont ça va faire du bien de voir des files, en fait, dans les centres de vaccination, parce que ça va montrer aussi l'engouement qu'il y a pour se faire vacciner, puis le désir de se faire vacciner.
On avait hier, c'était presque drôle de voir le ministre Dubé dire « Levez-vous de bonne heure, là, il y a 200 000 doses pour 800 000 receveurs potentiels, fait que dépêchez-vous. » Puis il a aussi dit, le ministre Dubé, qu'au plus tard, le 8 mai, la deuxième dose serait donnée aux aînés en CHSLD. Puis,
oui, c'est important ça aussi.
Ben oui, absolument.
C'est quelque chose qui était réclamé.
Oui, absolument. Puis on a vu le docteur Régent Parent qui est toujours si pertinent.
Régent Hébert,
excuse-moi. Comment puis-je oublier son nom de famille? Puisque c'était mon candidat adversaire dans l'élection dans Longueuil-Saint-Hubert. Mais personne n'a jamais contesté sa grande pertinence au niveau de sa connaissance, au niveau des personnes âgées. Et il est un grand avocat d'amener plus de soins à domicile. Mais effectivement, il a bien raison. Le système immunitaire des personnes âgées serait beaucoup plus comment dire, réagirait moins vite, moins bien à la première dose. Exactement. Merci de m'avoir aidé à sortir de ce mélange de consonnes et de voyelles qui voulaient être des mots. Et puis, et dans le journal ce matin, on constate qu'au niveau des coûts des vaccins, on a des belles surprises. On avait prévu initialement près de 2 milliards et on est à plus de 4 fois plus que ça.
C'est ça, donc le fédéral qui indique avoir finalement dépensé plus de 9 milliards de dollars pour acheter des vaccins contre la COVID-19. Mm-hmm. Le journal a feuilleté l'épais budget qu'a mis sur la table. 840 pages, très précisément, Chrystia Freeland qui a soumis ce document-là. Donc, 1,67 milliard de dollars, c'est ce dont on parlait depuis les derniers temps. Puis le journal a passé, on dit dans l'article, le mois de mars complet à retracer les dépenses fédérales liées à la vaccination. Puis avec tous les échanges qu'ils ont eu avec le ministère, là, des dizaines d'échanges, il n'y a jamais la somme de 9 milliards de dollars qui a été mise de l'avant. Jamais ça a été un chiffre dont il est question. On retrace aussi avec cet article-là les 8 pharmaceutiques là, avec qui on a signé des contrats pour obtenir jusqu'à 404 millions de doses. Mm-hmm. Donc, on peut chaque Canadien là, pour avoir plus de 10 fois une dose de vaccin.
Mais compte tenu de certaines problèmes de livraison et tout ça, évidemment, il y en a qui vont dire vaut mieux être prudent, là, mais effectivement, ça paraît beaucoup, mais en fait, la réalité, c'est que impuissant comme nous étions, parce qu'on pouvait pas s'auto-suffire en production, il a fallu tendre beaucoup de perches au coût que ça représente aujourd'hui.
C'est ça, puis il y a des questions aussi par rapport au coût qu'on paye pour chaque vaccin, parce que par exemple, pour AstraZeneca, nous autres au Canada, on a déboursé 8 et 18 pour chaque dose du vaccin, mais les États-Unis, eux, déboursent 4 $ par dose, l'Union européenne 2 $15.
Ah bon?
En janvier, on a payé 34,50 pour chaque dose de Moderna, de Pfizer. Donc, c'est selon les plus récentes données qui ont été publiées, mais c'est quand même bon de voir l'écart qu'il y a entre le prix que nous, on paye et que d'autres pays payent.
Ben oui, absolument. Et puis, hier, évidemment, grosse nouvelle, c'est donc la loi 21, donc l'encours supérieur du Québec, donc qui valide et invalide. Et ce qui est certain, c'est que, valide en gros la loi 21 sur le principe donc de la clause dérogatoire, mais le jugement arrive avec quelque chose de bien particulier relativement aux commissions scolaires anglophones. Et évidemment, le gouvernement n'a pas tardé à réagir en disant qu'il allait faire appel, parce qu'évidemment, ça crée une espèce de situation étrange où on considère donc que les commissions scolaires anglophones peuvent appliquer la loi à leur manière. Et donc, ça évoque, en fait, c'est comme basé sur le fait que à cause que les commissions scolaires anglophones ont le droit d'offrir le service comme ils l'entendent, ça évoque donc qu'il y a une notion de multiculturalisme qui s'impose sur l'interculturalisme, qui est le modèle qu'on préfère au Québec. Et évidemment, moi, si aujourd'hui je peux dire que j'ai foutu le yob aux vaches dans la campagne du Parti vert au Québec quand j'ai dit, écoutez, si les Québécois sont surpris, sont tannés de sourciller quand on parle de la loi 21, de faire sourciller les Canadiens par rapport à la loi 21, ben qu'on se sépare. Il va falloir s'assumer. Et très clairement ici, cette vision de l'interculturalisme du Québec ben est confrontée ici, entre autres dans ce jugement-là, qui soulève à quel point ben, du côté des commissions scolaires anglophones, on voit pas les choses du même œil. Et c'est donc une vision très canadienne du multiculturalisme qui s'oppose à l'interculturalisme. Mais cette loi-là a été votée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un enjeu. On n'a pas fini d'en entendre parler. Puis j'ai bien l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon a bien raison. C'est une illustration de l'impossibilité que le Québec s'affranchisse pleinement dans sa vision de l'interculturalisme et de sa société à l'intérieur du Canada actuellement. Madame Boutet, bonne journée et bonne neige. Au revoir.
Bye.